Bonsoir. Dans son rapport sur la situation des droits de l'homme en RDC présenté ce mardi à Genève, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies accuse les autorités congolaises de n'avoir pas saisi des informations transmises au sujet des 87 fosses communes recensées dans les Kasaï. Il condamne l'usage disproportionné de la force qui a conduit, selon l'instance onusienne, à l'une des pires crises humanitaires au monde, avec 5000 morts et 1,6 million de déplacés. En réaction, la ministre congolaise des droits de l'homme déclare que les tableaux brossés par les conseils est tellement sombre que l'on donne l'impression qu'il n'y a plus d'espace pour respirer en RDC. Comment analyser cette situation? C'est la question de l'émission et nous en parlons avec Maître Jean-Claude Katende. Il est président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO en sigle. Bonsoir Maître Jean-Claude Katende.
Bonsoir.
Maître Guillaume Madjolo, secrétaire général du parti politique Union des libéraux démocrates chrétiens. Il est aussi communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir Maître Guillaume Madjolo.
Bonsoir Monsieur Maté.
Et Maître Achille Kabongo, analyste et président de l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique, baptisé Institut professeur Philippe Bioya. Bonsoir Maître Achille Kabongo.
Bonsoir Guillaume Maté.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net.
Un nouveau rapport sur la situation des droits de l'homme en RDC, rapport publié ce mardi par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Jugé accablant par la RDC, ce document épingle la situation des droits de l'homme, proprement dite en RDC, mais également la situation politique et de gouvernance. L'essentiel de ces rapports avec Donat Madimba.
Ce rapport, selon RFI, évoque les droits de l'homme au Kasaï, mais également dans les deux Kivu et le Tanganyika. S'agissant du Kasaï, le Conseil des droits de l'homme regrette que les autorités de RDC ne se soient pas saisies des informations transmises au sujet de 87 fosses communes recensées dans le Kasaï et que l'action des forces congolaises, avec un usage jugé disproportionné de la force, ait conduit à l'une des pires crises humanitaires au monde, avec des chiffres comme 5000 morts et plus d'1,5 million de déplacés et des réfugiés en un an. L'organe onusien considère, je cite, que peu de choses ont été faites pour mener des enquêtes crédibles, impartiales et indépendantes sur les graves violations de droits de l'homme commises par les forces congolaises de défense et de sécurité. Le patron de la MONUSCO a à ce sujet réclamé des sanctions exemplaires pour les responsables, quels qu'ils soient. Au sujet des deux Kivu et du Tanganyika, le nouveau rapport de l'ONU les qualifie des conséquences de l'instabilité politique entretenue par les autorités de Kinshasa. Du point de vue politique et de gouvernance, enfin, ce rapport affirme que Kinshasa n'a aucune bonne volonté de poursuivre un processus démocratique pacifique, dénonçant, je cite, une répression systématique des opposants politiques, des défenseurs de droits de l'homme et des journalistes, l'augmentation des prisonniers politiques et le refus de les libérer malgré un accord politique, le report incessant de l'annonce d'une date pour les élections promises et que ce qui est actuellement appliqué politiquement en RDC n'est pas ce qui a été officiellement décidé par l'accord politique du 31 décembre 2016.
Merci Donat Madimba. Maître Jean-Claude Katende, président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO en sigle. Comment vous comprenez ces rapports du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies?
Je vous remercie pour la question. Je pense qu'il est d'abord important de féliciter les Nations Unies pour tous les efforts qu'elles ont faits à travers tous les mécanismes onusiens pour la protection et la promotion des droits de l'homme, pour documenter la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, sans oublier aussi toutes les questions liées à la situation politique actuelle. Pour nous, le rapport qui vient d'être publié retrace exactement la situation telle qu'elle se passe en République démocratique du Congo, et nous appuyons ce rapport totalement, parce que nous croyons qu'il aborde toutes les questions concernant les droits de l'homme, concernant la situation politique et l'accord du 31 décembre 2016. En fait, ce rapport revient sur les questions que les organisations des droits de l'homme au niveau national, dont l'ASADO, ont toujours décriées. Et donc, nous appuyons ce rapport totalement.
Voilà, vous appuyez ces rapports totalement. Ces rapports parlent des 5000 morts. C'est vrai qu'on ne remet pas en cause ces chiffres, mais on peut quand même mettre Katende, on peut se demander quels sont les éléments sur lesquels s'est basé le Conseil pour avancer ces chiffres. On parle des 87 fosses communes, mais qui n'ont jamais été ouvertes. Comment les Nations Unies savent qu'il y avait eu 5000 morts?
Vous savez qu'il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été avancés par le gouvernement de la République démocratique du Congo, l'Église catholique, ainsi que d'autres institutions. Je pense que les Nations Unies ont la possibilité, à travers le bureau conjoint des Nations Unies ici en République démocratique du Congo, de faire la documentation de tous les cas des droits de l'homme parce qu'ils sont effectifs sur terrain. C'est ça l'avantage que les Nations Unies ont par rapport aux organisations des droits de l'homme nationales que nous animons. Donc les Nations Unies ont des effectifs sur terrain pour documenter ces cas et arriver à des endroits où l'État, et en même temps aussi nous les organisations de droits de l'homme, nous ne sommes pas capables d'y arriver. Et quand vous regardez tous les rapports que les Nations Unies ont publiés à travers le bureau conjoint des droits de l'homme sur la question, il est tout à fait normal qu'on arrive à ces chiffres que nous estimons être un chiffre minimal. Parce que si aujourd'hui toutes ces fosses communes dont on a parlé ont été ouvertes, il est possible qu'on aille au-delà du chiffre avancé par les Nations Unies.
Oui,
au lieu de s'engager sur les débats des chiffres, je pense qu'il est important de dire qu'un seul Congolais qui est tué dans les conditions qui ne respectent pas les lois de la République, qui ne respectent pas les droits de l'homme, doit être condamné. Et donc, si on arrive déjà à 5000, à 3000, même à 300 dont le gouvernement avait déjà parlé, c'est une situation grave.
Oui, maître, c'est bien de publier des rapports, mais vous ne pensez pas que tant qu'il n'y a pas qu'il n'y aura pas de poursuites judiciaires contre les responsables de ces différentes tueries, ces rapports ne changeront rien?
Non, je pense que si aujourd'hui la justice congolaise a des difficultés pour agir de manière indépendante, pour documenter les faits, identifier les victimes, les coupables, ainsi que les commanditaires, nous ne sommes pas sûrs que cette situation va perdurer d'ici 5 ans. Ce qui est vrai, c'est que la justice ne restera pas sans agir pendant plusieurs années, d'autant plus que beaucoup des crimes qui ont été commis dans les Sud Kivu, dans le Nord Kivu, dans le Kasaï sont des crimes qui ne sont pas prescriptibles. Et donc, les auteurs peuvent être poursuivis à tout moment. Et nous croyons que le premier point de départ pour qu'aujourd'hui ou demain qu'ils soient poursuivis, ce sont ces genres de rapports qui retracent la situation parce que si ces rapports n'existaient pas, les auteurs peuvent facilement effacer les traces des violations des droits de l'homme qu'ils ont commises. Donc pour nous, ces rapports sont très importants pour la justice qui sera rendue, si ce n'est pas aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans. Parce qu'on est sûr que ceux qui commettent ce genre de crimes et leurs commanditaires, ils seront poursuivis, répondront devant la justice, si ce n'est pas congolaise, mais la justice internationale un jour.
Maître Katende, la ministre des Droits Humains de la RDC a réagi en disant ceci, je cite, « Les tableaux brossés sur les droits de l'homme dans mon pays est tellement sombre que l'on donne l'impression qu'il n'y a plus d'espace pour respirer en RDC. Et pourtant, on y respire, on y exerce des activités économiques, des enfants vont à l'école, les ONG exercent leurs activités et même près de 600 partis politiques et une soixantaine de chaînes de télévision fonctionnent en toute liberté.
Je pense que la déclaration de la ministre des Droits Humains, pour moi, elle est tout à fait contraire à ce que nous vivons au jour le jour en République démocratique du Congo. La situation est sombre et elle correspond à la réalité que nous vivons tous les jours. En République démocratique du Congo, quand on dit qu'il y a la liberté d'expression, la liberté des manifestations, la liberté de faire les commerces, mais Enfin, il faut se dire aujourd'hui que pour parler en République démocratique du Congo, il faut être courageux. Alors que c'est un droit, la liberté d'expression, c'est un droit reconnu par la Constitution de la République démocratique du Congo. Quand vous prenez la question liée au droit ou à la liberté des réunions, à la liberté de manifester, vous avez suivi il y a quelques jours des jeunes qui ont organisé une protestation en ce qui concerne l'invalidation des passeports semi-biométriques qui ont été arrêtés sans qu'ils n'aient commis aucune infraction ou aucun fait répréhensible par la loi de la République démocratique du Congo.
Merci maître. Merci maître. Maître Guillaume Madiolo, secrétaire général du parti politique Union des libéraux démocrates chrétiens. Vous êtes aussi communicateur de la majorité présidentielle. Votre lecture au sujet de ces rapports qui épinglent la situation des droits de l'homme, mais aussi la situation politique et de gouvernance en RDC.
Merci infiniment. La première observation est simple. C'est une question de procédure. Les activités en rapport avec, pour ne pas me répéter, les rapports qui viennent de la structure des droits humains passe par la confrontation des rapports. Il faut que les pays, enfin, la structure vienne avec son rapport et les confronte à celui du pays et qu'on détermine ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'on peut discuter. C'est ça la procédure. On ne peut pas, de manière unilatérale, décider qu'effectivement c'est ça les rapports. Ça n'existait pas.
Et vous pensez que cette procédure n'a pas été respectée?
Mais pas du tout, parce que vous avez la position qui a été donnée par la ministre qui ne correspond pas à ce qu'eux disent. Déjà, il y a un problème par rapport à la procédure. Au-delà de toutes les considérations, des chiffres et tout ce qu'on dit là, il y a d'abord la procédure. Pourquoi cette procédure n'est pas appliquée en RDC comme il faut? C'est ça la première question, la première observation. Deuxième observation, moi je viens des Kananga. Je viens des Kananga, j'ai été avec tous les chefs coutumiers de l'espace Kasaï Central et qui m'ont expliqué ce qui s'est passé sur le terrain. Et dans l'espace Luisa, notamment j'étais avec le chef Kalamambouji, qui était dans la salle de cette réunion, cette conférence très très difficile par rapport à la paix, à la réconciliation. Il m'a pas dit avoir vu les gens des Nations Unies ou des ONG en train de faire le tour de ces coins-là pour pouvoir prélever quoi que ce soit. C'est faux, archi faux. Les gens, au départ de leur bureau climatisé à Kinshasa ou quelque part enfermés dans les structures de la MONUSCO au niveau des Kananga, peuvent décliner comme ça, effectivement, il se passe telle chose, telle autre chose à tel endroit. Mais c'est faux, archi faux. On a des chefs coutumiers qui ont vécu des affres terribles qui viennent vous dire ce qui s'est passé exactement. Et puis on leur pose la question si, entre-temps, ils ont vu des gens venir pour pouvoir contrôler des inspecteurs de quelque nature que ce soit, qui soient locaux congolais, en train de prélever, voir et tout ça. Non, faux et archi faux.
Et donc là, il y a un problème des sources d'information.
Mais il y a un problème. Je viens du terrain. Vous savez, j'ai déjà discuté avec les confrères Katende. C'est très bien de pouvoir faire la caisse des résonances qui vient d'ailleurs parce que c'est tellement intéressant. C'est la vérité. Nous sommes dans le mensonge. La vérité est de l'autre côté en permanence. Hein? C'est ce qu'on a eu avec Timur Sora. C'était la vérité absolue. Et finalement, on a découvert que c'était faux. Ce qu'on a eu avec l'Irak, c'était la même chose. Les mêmes types de rapports qu'on a eu sur l'Irak, sur la Syrie à un moment donné, sur Timur Sora en ce qui concernait la Roumanie. On connaît les conséquences par la suite. Lorsqu'on a envie de pouvoir faire des choses dans un pays, on passe par cette procédure. Ce n'est pas acceptable. Et quand je vois des intelligences congolaises s'associer à ces types de procédures, contre même leur propre métier en tant que juriste, il y a quand même un minimum à pouvoir observer. Au-delà des considérations, est-ce que tout se passe bien en RDC? Non. Je dirais pas oui. Mais en même temps, si on doit comparer ce qui est comparable, l'espace CEAC, quel est le pays de la CEAC qui se trouverait au même niveau que la RDC en termes d'ouverture démocratique? Quel est ce pays? Comme donne le nom de ces pays-là, un seul. Je n'en demande pas deux, trois, un. Où il y a multiplicité des médias, la parole est libre. J'étais avec Maître Katende sur un plateau de télévision il n'y a pas très longtemps. Et on a discuté. Au sortir de là, on ne l'a pas arrêté. Alors, on exagère. C'est-à-dire, à un moment donné, ça devient des postures et ça dilue complètement l'essentiel de ce qu'on peut dire. Je viens des Kananga, je me répète une fois de plus, j'ai vu des choses gravissimes, on nous a montré des choses gravissimes, il s'est passé des choses extrêmement difficiles à pouvoir accepter.
Voilà, et que répondez-vous au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lorsqu'il affirme que peu de choses ont été faites pour mener des enquêtes crédibles, impartiales et indépendantes sur les graves violations des droits de l'homme commises par les forces congolaises de défense et de sécurité?
Ça veut dire quoi, peu de choses ont été faites? Pour l'instant, il y a des tribunaux, notamment militaires, qui sont érigés, qui sont en train de poursuivre. Mais dans l'adresse du chef de l'État, la dernière adresse à l'ouverture de cette conférence à laquelle j'ai participé, et moi-même j'ai recueilli parce que j'étais président de la commission en charge des aspects humanitaires et psychosociaux, j'ai présidé une activité avec en face de moi des victimes directes. Et par conséquent, je peux dire quelque chose qui est lié au terrain, pas à la majorité, mais au terrain congolais. Pour l'instant, nous sommes encore en train d'évaluer ce qui s'est passé sur le terrain. C'est très compliqué, c'est très difficile. Je vous informe par ailleurs que, notamment à Lusambo, parce que j'avais la présentation de la situation de Lusambo, où il y a encore des corps au sol. Voyez-vous ? Donc, ce sont des choses qui sont là, des vrais gens.
En fait, les rapports ne disent pas que rien n'a été fait. Les rapports disent que ce qui a été fait n'est pas suffisant.
Les rapports doivent dire ceci. Il faut qu'on les compare avec ce qui a été fait en RDC et qu'on évalue et qu'on tire une synthèse par rapport aux deux rapports. Il ne s'agit pas de pouvoir avoir un son de cloche d'une structure qui n'a même pas globalement été sur le terrain. Quand on vous parle ici, j'entends Maître Tende dire, ils ont des liaisons, mais les liaisons où ? Les bureaux de liaison sont situés où exactement ? Nous avons 2 345 000 km² et l'espace Kassai est tellement énorme. À quel endroit sont-ils ces gens-là pour nous donner l'exactitude de ce qu'ils ont vécu sur le terrain ? Est-ce qu'il s'est passé des choses sur le terrain ? Monsieur Maté, j'ai dit oui, il s'est passé des choses sur le terrain. De quelle ampleur ? Mais ce n'est pas l'ampleur qui est donnée là, ce n'est pas la vérité qui est donnée là. Y a-t-il eu de temps en temps, au fait, un comportement désobligeant dans les chefs des agents de sécurité ou non ? Bien entendu, ça arrive tout le temps, en période difficile et des guerres. Ça arrive tout le temps. À quelle hauteur ? Il appartient à la justice de pouvoir établir les charges par rapport à ça.
Et au sujet des provinces de l'Est, selon ces rapports, c'est l'instabilité politique entretenue par les autorités de Kinshasa qui est à la base des violences dans les nord et les sud Kivu et même dans le Tanganyika.
Il m'en souvient aussi par rapport à ces types de propos bateaux où il avait été dit que Joseph Kabila avait monté la M23. Il m'en souvient très bien sur toutes les chaînes, notamment une chaîne d'un opposant tout puissant. Il s'avère simplement quand on s'est trouvé à Kampala pour pouvoir discuter avec les M23, ces chers messieurs étaient avec les M23. Alors, s'il vous plaît, il faut qu'une certaine jurisprudence RDC puisse nous ramener à un minimum de décence lorsqu'on doit dire des choses de cette nature-là. Qui a vocation à pouvoir vouloir faire perdurer la situation gravissime sur le terrain au motif que, attendez, on est dans les n'importe quoi basiques qui n'est pas acceptable. C'est l'indécence permanente. On fait le commerce de tout et de rien parce qu'on a envie de se faire entendre.
Et comment vous expliquez la récurrence de la situation d'insécurité dans l'est du pays ?
Il y a une sorte d'habitude qui s'est installée dans la partie est et qui n'est pas acceptable, qui est notamment liée au commerce illicite des matières premières. Et on le sait, ça part où ? Parce que sur ce point-là précis, M. Maté, il aura fallu qu'on dise à qui est destiné toutes ces matières premières qui sortent de la partie Est. Ça part où exactement ? La loi Dodd-Frank qui devait devoir gérer cet aspect-là jusqu'à aujourd'hui est à faune. Pourquoi ?
Merci Maître Achille Kabongo, analyste et président de l'Institut Congolais d'études et d'analyse stratégique baptisé Institut Professeur Philippe Bouyoya. Votre analyse au sujet de ces rapports accablants pour les autorités politiques de la RDC.
Accablant mais très grave, Guy Maté, 87 fosses communes. Les cadavres jonchent le sol des deux Kassai. Guy Maté, on se demanderait que cette tuerie ou ces tueries macabres ressemblent à une certaine forme de nettoyage systématique ou à une épuration ethnique très grave. On dirait que c'est une épuration qui utilise des méthodes à la Gestapo. On dirait que les forces de Himmler sont passées sur les Kassai. À la méthode allemande, pratiquement.
Là, vous n'êtes pas en train d'exagérer ?
Non, je n'exagère pas, parce que mon contradicteur et confrère Guillaume Mandjolo, que j'apprécie beaucoup et avec qui je croise le fer pour la première fois sur ce plateau de Radio Capé, reconnaît qu'il y a des choses innommables qui se sont passées. Et il ne nie pas l'ampleur de la chose. Il dit seulement ne pas connaître le degré de l'ampleur. Mais voilà, Guy Maté, que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dresse ce rapport-là. Ce que moi je condamne de la part des autorités congolaises, c'est cette attitude toujours négationniste. C'est cette position toujours sur la défensive. On nie. Lorsque le Conseil des droits de l'homme a commencé à révéler les forces, on était à 5, nous sommes passés à 12, à 15, à 20, 25, 30, 30, 40, 50. Quelle est l'attitude des autorités congolaises? On nie d'abord. On essaye de créer un flou et par après, on finit quand même par reconnaître.
Vous avez suivi maître Mandjolo qui a relevé deux choses. D'abord, la question de la procédure. Et le deuxième élément, c'est la source d'information.
Procédure, mon œil. Je pense que maître Guillaume Mandjolo, que je respecte beaucoup, il parle avec un français de collégien et un accent de séminariste. Il est très parfait dans le ton. Mais cela n'exprime pas la douleur et la réalité vécue par les populations congolaises meurtries sur le terrain. Guy Maté, ce rapport est comme un miroir. Je vais vous donner un exemple simple, parce que moi je suis un analyste. Je fais la docte relecture des événements.
Vous pensez que la procédure rapport à l'élaboration d'un rapport
a été respectée? Quelle procédure voulez-vous qu'on suive, Guy Maté? Quand le Conseil des droits de l'homme...
On devait confronter les points de vue du gouvernement congolais et les points de vue des Nations Unies.
Les confronter comment? Parce que le gouvernement congolais lui-même, quelles sont les statistiques que le gouvernement congolais nous a données réellement depuis la survenance de ce conflit ou de cette rébellion de Kamuinasap?
Il dit qu'il revient de Kananga, il n'a jamais vu un enquêteur des Nations Unies à Kananga.
Peut-être qu'il revient de Kananga, il n'a pas vu. Peut-être que le confrère Guillaume Mandjolo est allé en tourisme, excusez-moi. Mais quelles sont les statistiques réelles que le gouvernement congolais a mis à notre disposition, que nous connaissons, que nous pouvons confronter avec le conseil, le rapport du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies? J'enchaîne, Guy Maté, pour dire ceci. Le rapport est comme un miroir. Et ce miroir-là montre le véritable visage des autorités qui sont en place au pouvoir en République démocratique du Congo. On leur montre que regardez comment vous gérez le pays, comment vous êtes en train de meurtrir votre propre population. On leur demande par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, regardez-vous dans le miroir, regardez comment vous êtes votre propre visage, regardez ce que vous-même qui êtes, vous êtes en train de faire à votre propre population. Ce que les autorités congolaises devaient faire, c'est quoi? C'est reconnaître le rapport et se remettre en question.
Voilà.
Dans ce pays, même du temps de Mobutu, il y avait un institut qu'on appelait Makanda Kabobi. Et un des grands professeurs à cet institut, c'était Mabika Kalanda. Il avait écrit un ouvrage qu'on appelle...
L'idéologue du MPR.
Du MPR, c'est-à-dire celui qui concevait la pensée et les guides. Nous étudions ça à l'Institut Congolais d'études stratégiques. Je vous dis qu'il avait écrit la remise en question. Il avait demandé... aux gouvernants. Quels sont ces gouvernants-là qui, lorsqu'ils gouvernent, ils avancent, à un certain moment, ils ne s'arrêtent pas pour se remettre en question?
Maître Kabongo,
c'est ça le problème.
Ces rapports mettent en cause les autorités politiques de la RDC, mais il y a aussi d'autres acteurs. On peut notamment citer les miliciens Kamuinasap au Kasaï, les milices des Pygmées Bantou dans les Tanganyika et différents groupes armés au nord et au sud Kivu. Et ces rapports n'insistent pas sur ces différents acteurs.
Non, mais je veux vous dire une chose, Guy Maté. Vous laissez la prérogative de l'information à l'étranger. Le Congo est dirigé par des autorités. Mais pourquoi pas nous-mêmes, nos propres autorités, ne se mettent pas en œuvre pour aller rechercher l'information
correcte. Ne produisent pas de rapport.
Elles attendent toujours que quand des rapports viennent de l'extérieur pour critiquer ces rapports-là. Moi, je suis en train de me demander que mon confrère, estimé confrère Guillaume Mandjolo, me dise quelle est cette procédure-là qui a toujours demandé ou qui exige, lorsque un Conseil des droits de l'homme des Nations Unies donne un rapport, qu'on confronte d'abord le rapport au point de vue des autorités en place à partir du moment que les autorités en place n'ont pas donné ce rapport-là.
À votre avis, quelle devrait être la réaction de la justice congolaise après la publication de ces rapports? Car on voit qu'il y a des indices, des soupçons.
Non, justice. Regardez, justice de parodie. Procès de parodie. Jusqu'à présent, les procès qui sont organisés sont pratiquement des procès superficiels qui ne touchent pas le fond de la chose. Ceux qui sont poursuivis devant ces cours et tribunaux militaires ou soit civils, ne sont pas peut-être même pas les vrais assaillants.
Alors, vous dénoncez les procès, maître Kabongo, vous êtes avocat, vous dénoncez les procès des parodies, mais au-delà de tout ça, est-ce que ne se pose pas la problématique de la sécurisation des magistrats? Est-ce que vous pensez que les magistrats congolais travaillent en toute sécurité lorsqu'ils doivent gérer des questions aussi sensibles?
Mais écoutez, il y a tous ces problèmes-là qui se posent. Je pense que j'ose croire que lorsqu'un tribunal siège, il siège en toute indépendance. Quant à l'aspect Et qui intervient dans l'ombre s'il y a des pressions qui sont exercées sur le magistrat? Il est difficile de pouvoir établir cet aspect des choses. Mais tout simplement, tout ce que nous remarquons, que la plupart des procès qui sont organisés ne touchent pas au fond de la question. Guy Maté, dites-moi, est-ce que le gouvernement a organisé dans le Kassai, des groupes ou soit des rassemblements des victimes qui pouvaient aller témoigner? Nous avons vu au Rwanda des Gachacha. Je pouvais demander au gouvernement congolais d'organiser ce procès sous forme de Gachacha et de demander à ceux-là qui ont été directement victimes de témoigner et de dire qui est-ce qui a été responsable des exactions qui ont été commises.
Et vous pensez que cela ne va pas arriver? Peut-être qu'on finira par faire cela.
Guillaume Andjolo vous dit qu'il vient de Kananga. Il vous dit qu'il a été en contact avec les chefs coutumiers. Mais pourquoi le gouvernement n'envisage pas ce genre de Gachacha-là dans
merci,
le Kassai?
Merci.
On devait l'envisager.
Maître Jean-Claude Katende, il y a une question qui vous a adressée. Elle vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Mbouli, Kassama depuis Lubumbashi, dans la province du Katanga. La question que l'on se pose est celle de savoir si la pluie des rapports qui pleuvent de partout va aider la RDC à sortir de la crise politique actuelle. Car ces rapports ne jouent aucun rôle dissuasif. Et malgré de multiples rapports du genre, les autorités congolaises sont les mêmes, rien ne change. Je crois que pour améliorer la situation des droits humains en RDC, la CNDH doit jouer aussi son rôle, car son silence accuse le gouvernement congolais d'être responsable de toutes ces violations des droits humains.
Maître Jean-Claude Katende.
Oui, merci. Mais avant d'aborder directement la question qui m'est posée, je voudrais revenir sur deux choses rapidement. La première, Maître Guillaume a dit que dans l'espace de l'Afrique centrale, la RDC peut être considérée comme un modèle en termes de liberté et de respect des droits fondamentaux. Je pense que là, je me sens vraiment mal à l'aise parce que la République démocratique du Congo ne peut pas être évaluée en fonction des autres pays voisins ou des pays de l'Afrique centrale. Il doit être évalué en rapport avec ses engagements internationaux et nationaux en rapport avec les droits de l'homme. Pour moi, les pays de l'Afrique centrale ne peuvent pas être considérés comme un modèle pour la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a des engagements, elle doit pouvoir les honorer et elle sera évaluée en fonction de ça. De deux, il faut dire aussi que depuis que les 87 fosses communes ont été dénoncées, nous n'avons aucun rapport de la République démocratique du Congo sur la question. Et donc, on a laissé la liberté aux autres institutions, à d'autres institutions, de pouvoir faire leur rapport. Et là, je pense que c'est la volonté du gouvernement de laisser un vide et de s'attaquer à ceux qui font un effort pour publier des rapports, pour donner l'information sur ce qui s'est passé. Maître Guillaume était au Kassai, il est responsable d'un parti politique. Est-ce qu'aujourd'hui il peut nous montrer un seul rapport de son parti politique par rapport à ce qui s'est passé au Kassai? C'est encore le silence parce qu'il y a des choses qu'on veut cacher. Je pense que la position de Maître Guillaume ne peut pas être défendue. Il reconnaît les faits, mais il ne veut pas en reconnaître la hauteur ou les degrés. Et ça, c'est malheureux.
Et s'il faut répondre à la préoccupation de l'auditeur?
La question qui m'a été posée, je suis tout à fait d'accord, mais je ne pense pas que la pluie des rapports ne va servir à rien. Je l'ai déjà dit, un jour, la justice sera rendue dans ce pays, qu'on le veuille ou pas, et ces rapports vont servir à quelque chose. La Commission nationale des droits de l'homme, si nous prenons le travail de cette commission, depuis les événements de janvier 2015 à aujourd'hui, il manque du courage à cette institution d'aborder des questions de manière droite, de faire des rapports qui puissent interpeller le gouvernement et servir de modèle. Quand vous regardez tous les rapports qui ont été faits, la Commission nationale des droits de l'homme n'a fait que des recommandations du type général.
Maître Jean-Claude,
en profondeur. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec notre frère qui a posé la question, que si la Commission nationale des droits de l'homme faisait son travail, je pense que elle irait dans le même sens que le rapport publié
Maître Jacques-Claude
par le Conseil des Nations Unies.
Vous avez suivi Maître Kamandjolo qui a affirmé que la procédure classique n'a pas été respectée et il se pose aussi un problème des sources d'information.
La procédure, c'est laquelle?
Et qui consistait à confronter, n'est-ce pas, les points de vue du gouvernement ainsi que celui des Nations Unies.
Non, il faut dire que ici, sur place, le bureau conjoint des Nations Unies a toujours communiqué ses rapports au gouvernement pour donner son point de vue. Et je ne pense pas que c'est la même procédure en ce qui concerne les conseils, surtout pour ce type de rapports. Ça,
merci.
C'est de un. De deux, il faut rappeler que le gouvernement n'a pas encore produit un rapport qui couvre toutes les questions soulevées par la situation au Kasaï.
Merci.
Pourquoi le gouvernement, plus d'une année après, ne fait toujours pas un rapport global sur ce qui s'est passé au Kasaï, ne fût-ce que pour informer les Congolais que nous sommes, parce que ceux qui sont morts dans cette partie-là du pays, ce sont nos frères, et nous avons droit à connaître la vérité.
Merci,
Maître Jacques-Claude. Le gouvernement ne fait pas ce travail-là. Il doit pouvoir se taire quand les autres font le travail que lui aurait dû faire.
Merci, Maître Mandjolo. Il y a une question qui vous est adressée, une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Lissala.
Cédric Kana, depuis Lissala, province de la Mongala, quel que soit le tableau peint par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ce qui est connu par tous et même notre gouvernement, c'est qu'il y a eu des morts et des fausses communes au Kasaï. Et selon plusieurs sources concordantes et des images qui ont circulé, ces crimes et violations des droits de l'homme ont été l'œuvre en majorité de nos forces de l'ordre et de sécurité. Devant de telles catastrophes, les autorités congolaises devraient chercher à trouver une solution durable et efficace pour que ça ne revienne plus dans les jours à venir. Malheureusement, nous avons l'impression que la vie humaine est banalisée et devenue un sale jet d'accusation et de défense. Tout ce que nous attendons de la part de notre gouvernement et des instances judiciaires nationales ou à défaut internationales, c'est que la justice soit rendue et les coupables punis. On ne peut comprendre qu'une crise coutumière dégénère à des massacres pareils.
Maître Guillaume Mandjolo.
Oui, merci. Je comprends la méconnaissance en fait de la situation. J'ai entendu ici le confrère s'est lancé dans un commerce de frustration, même si elles peuvent être légitimes.
Maître Achille Kabongo.
Oui, confrère Kabongo. Et parti du principe que bon, quelqu'un qui a présidé une commission sur les souffrances des populations où on a exposé devant lui, et avec des images à l'appui, toutes les souffrances des populations, c'était des touristes. C'est-à-dire que les chefs coutumiers des Lusambo, des Kalamambouji, de peu partout qui sont venus, c'était des touristes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vécu ça. Bon, eux à Kinshasa, au départ de leur bureau et de leur cours de formation, ont vécu ça. C'est malheureux qu'on puisse arriver à ce type d'extrémité lorsqu'on a envie de pouvoir parler des choses sérieuses. J'ai viens de vivre des choses abominables. J'étais sur le terrain, j'ai vu même des crânes qui traînent encore. Ceux qui n'ont pas vu. Ni les confrères comme on, qui est sur place ici, ni Maître Katende qui est de l'autre côté. Voyez-vous, c'est ça la vérité qui est sur place sur le terrain, ce que moi j'ai vécu. Parce que je peux pousser plus loin, sans vouloir tirer la couverture vers moi. Il y a certains membres de ma famille qui ont été égorgés par la milice comme dans sa peau. Est-ce que les forces de l'ordre ont eu une main lourde à un moment donné, oui ou non? Oui, tout à fait. C'est une vérité, mais il faut l'établir, puisqu'il y en a beaucoup qui sont déjà poursuivis par les tribunaux militaires. C'est une vérité qui est sur le terrain. Est-ce que Kamuina Sapu a décimé avec une sauvagerie particulière ou non? Oui, bien entendu. Image à l'appui filmée par eux-mêmes, en train d'éviscérer les personnes vivantes et tout ça. Nous, on a vu ça, on a vécu ça. Ils n'ont pas vécu ça. Nous sommes dans une discussion entre les gens qui sont dans une ambiance quinoise intéressante, où on doit parler de tout et de rien sans avoir vécu, avec quelqu'un qui vient du terrain, qui l'a vécu, dont une partie de la famille a vécu. Donc, je répète une fois de plus, j'ai pas envie de me victimiser, c'était même pas le projet. Mais simplement, lorsque l'obsolescence du comportement, y compris des intellectuels, commence à dépérir à cette hauteur-là, ça pose un problème. Qu'on ne soit pas d'accord avec les procédures ou la gestion du pays par un groupe de personnes, c'est une chose. Mais qu'on puisse tout dénaturer pour s'attirer la sympathie, ça n'est une autre. Voyez-vous, j'ai fait quasiment 10 ans de la coopération et des affaires étrangères. Et en termes des rapports des Nations Unies, de quelque institution que ce soit, ce sont des rapports. Il faut requérir l'avis du pays concerné avant de pouvoir le publier. Ça se passe dans les cadres diplomatiques.
C'était obligatoire.
Et comment vous expliquez le fait que cela a été relevé par Maître Achille ainsi que Maître Katende, le fait que le gouvernement congolais n'a jamais publié un rapport au sujet des exactions au Kasaï?
Mais écoutez, ça c'est une démarche à part. Parce que l'idée ici, est-ce qu'il n'y a pas des rapports? Si, il y a des rapports parce que de toute façon il y a des poursuites. Il y a des rapports qui sont liés à l'exécution de la souveraineté directe, c'est-à-dire que quand on fait les rapports, il y a des enquêtes, il y a des actions judiciaires qui sont en cours. C'est pas des rapports pour commencer à distribuer à tout le monde. C'est comme si on était un pays qui était sous autorité d'une entité quelconque à laquelle on doit rendre des rapports en matin, midi, soir. Eh bien, on ne demande pas des rapports aux Américains lorsqu'il y a des tueries aux États-Unis sur les Noirs. On ne demande pas des rapports. On ne demande pas des rapports en France lorsqu'il y a ce type de comportements. Mais simplement, lorsque vous lancez dans votre souveraineté, l'appareil judiciaire pour faire son travail, qu'il l'ait fait, malgré lui, peut-être que c'est pas parfait, je peux le concéder. Mais c'est ça la procédure. Ce que je dénonce ici, c'est le fait que l'avis qu'on doit requérir d'un gouvernement n'a pas été fait au motif qu'il ne sort pas les rapports. On peut pas justifier ça. Je vous ai cité Timi Sohara. Je vous ai cité l'Irak. Pourquoi est-ce qu'on ne me contredit pas sur ces points précis dans le même type de rapport?
Mais quels sont les éléments, les statistiques que le gouvernement congolais met à la disposition des experts des Nations Unies, par exemple?
Vous savez, pour l'instant, il y a tout ce que l'armée fait sur le terrain et la police qui est rapporté. Il y a des commissions sur place à Kananga aujourd'hui, entre la MONUSCO et les gouvernements, à la fois local et ceux qui viennent du gouvernement central. Ça existe. Comment est-ce qu'on poursuit les gens? Sur quelle base on poursuit les gens? Les militaires qui sont poursuivis, c'est sur quelle base? C'est sur base des rapports et des enquêtes combinées de temps en temps, où on peut donner des informations aux gens de la MONUSCO. Parce que eux ne sont pas sur le terrain.
Merci.
Ce sont des touristes qui ne sont pas sur... En termes de touristes, alors, confrère Achille, j'en connais des très très beaux, des très gros, des vrais touristes qui traînent sur le boulevard ici, qui n'ont jamais été ni à Luz ni à Kananga.
Merci. Maître Achille, il y a une question qui vous adresse, elle vient de Bukavu, au sud Kivu.
Je suis Franklin Matumalimri, je vous appelle depuis la ville de Bukavu, dans la province du sud Kivu. Les rapports, c'est rapport, ils ne voient pas. C'est vraiment du ping-pong entre les Nations Unies qui voient tout en noir à l'RDC et le gouvernement qui voit tout en blanc. Je pense que le peuple congolais a assez de sujets qui ne nous avancent à rien. Car plus les rapports sortent, plus la situation se dégrade sur le terrain. C'est vraiment de la peau de nous dire que les Nations Unies sont aux Congolais. Dans la mesure où plus les rapports se multiplient, plus les acteurs politiques ont peur de quitter le pouvoir par peur de ne pas être attrapés par la justice internationale. C'est vraiment de la bonne manière d'accrocher les autorités actuelles au pouvoir.
Maître Kachil Kabongo.
Oui, je dirais à mon compatriote et frère de Bukavu au sud qui vous que il faut pas mal placer le débat et confondre les choses. Les Nations Unies n'ont pas vocation à voir tout en noir en République démocratique du Congo. Et je l'informe que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies n'a fait que dire la vérité. Et la vérité blesse, on le sait. Danton disait l'âpre vérité, c'est ce qui a été dit. Et lorsqu'on dit cette vérité, très souvent, elle met en mal le gouvernement. Elle met le gouvernement dans une mauvaise position. C'est comme sur un ring de boxe, elle accule le gouvernement dans les cordes. Et le gouvernement se met sur la défensive. Alors, quand il dit que non, les autorités ont peur d'être poursuivies, je peux vous dire que la Cour pénale internationale existe. Et quand le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies mène une enquête, parmi les personnels du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui ont mené les enquêtes et qui ont publié, très souvent, j'informe même mon confrère Guillaume Andjolo que non, il y a souvent des éléments du parquet près la Cour pénale internationale, du bureau du procureur, comme l'on dit. Ils ont ces rapports-là. Fatalement, un jour ou l'autre, les poursuites seront établies.
Maître Achille
Mais Kabongo. Alors, il ne faudrait pas créer un mauvais débat pour dire que non, les autorités congolaises cherchent à s'accrocher au pouvoir et les Nations Unies voient tout en noir, non.
Oui,
on n'a voulu que dire la vérité.
À votre avis, comment ce énième rapport pourrait aider à améliorer la situation des droits de l'homme et la situation politique en RDC?
Guy Maté, c'est là qu'il y a le problème, la problématique.
en quelque sorte en République démocratique du Congo, ce qui concerne la violation des droits de l'homme. Guy, nous sommes tombés dans un cercle vicieux et nous avons pris le pli. Un très mauvais pli. Nous sommes dans un cercle vicieux dans lequel on ne sort pas. Voilà que nous sommes confrontés à un régime, à des autorités qui sont en place au pouvoir. Lorsqu'on leur montre que regardez les violations que vous commettez sur votre population, les autorités se mettent sur la défensive et rejettent carrément totalement en bloc. À l'instar de mon estimé confrère...
Ces différents rapports pourraient avoir quel impact sur la situation des droits humains?
Mais quel impact? Ce sont les mêmes rapports. Je pense que c'est la énième émission sur laquelle nous discutons de ces genres de rapports. Il y avait aussi un rapport de l'Union européenne. On dirait qu'en République démocratique du Congo, les autorités se sont bouchées les oreilles.
Merci.
Et la vie humaine n'a plus de sens.
Merci.
Et la vie humaine est banalisée complètement.
Maître Jean-Claude Katende, comment ces rapports pourraient aider à améliorer la situation des droits humains ainsi que la situation politique en RDC?
Je pense qu'il revient aux institutions de la République démocratique du Congo de prendre ce rapport, de l'examiner, de faire des enquêtes sur terrain pour vérifier sur base d'un rapport contradictoire que les faits qui sont mentionnés ne sont pas vrais, ou peut-être que ces faits sont vrais et il faut prendre des mesures pour redresser la situation très rapidement, parce que nous reconnaissons tous ceux qui sont pour et ceux qui sont contre ce rapport qu'il y a eu des faits qui ont eu lieu dans la région du Kasaï. Et donc, ça dépend de la volonté des autorités congolaises. Et dans ce cas, c'est la justice, si elle était indépendante, qui pouvait aider à faire avancer la situation. Or, malheureusement, notre justice est ce qu'elle est. Et nous pensons que dans le cas d'espèce, il y a la justice internationale qui peut agir pour que les coupables et leurs commanditaires soient mis devant la Cour pénale internationale pour répondre de leurs faits. On ne peut
Maître
pas
Katende,
vivre même dans un pays où il n'y a pas de justice.
Maître Katende, nous sommes à la fin de l'émission.
De la faiblesse de notre justice pour rester dans l'impunité.
Voilà, et en conclusion, votre conclusion, nous sommes à la fin de l'émission.
Ma conclusion, c'est d'encourager les institutions des Nations Unies à continuer à faire ce genre de travail et de demander aux autorités de la République démocratique du Congo de pouvoir aussi faire ce genre de rapports pour
Merci.
Que nous puissions les comparer et tirer des conclusions.
Merci.
Et le peuple a droit à la vérité et je pense que notre détermination à nous tous d'exiger des comptes à nos
Merci,
autorités,
maître...
c'est un aspect important.
Merci, maître Guillaume Mandiolo. Ça sera sur votre conclusion. L'impact de ces rapports sur l'amélioration de la situation des droits humains et de la situation politique en RDC.
Vous avez vu comment est-ce que les pièges s'est refermés par rapport à votre question sur maître Katende? Puisqu'après tout, il faut revenir au gouvernement pour aller voir ensemble de manière contradictoire ce qui se passe sur le terrain avant de tirer les conclusions. Il s'agit de ça. Ça n'a pas été fait. Alors finalement, ils viendront pour faire le gouvernement pour dire voilà, on va regarder. Il aura fallu le faire au préalable. Vous savez, je suis vraiment à l'écoute des paroles silencieuses qui apportent la tempête. Et non au vacarme de ceux qui détiennent la vérité, qui savent tout. Et cette puissance incontrôlée, cette volonté de puissance de ceux qui savent tout, qui répercute tout ce que l'Occident dit est dans leur bouche comme étant parole des Bibles. Et c'est malheureux pour des Congolais qui n'ont pas leur propre identité, leur Merci. Propre appréciation.
Merci, Maître Kabongo. Votre conclusion.
Ma conclusion est celle-ci. Il faudrait que le gouvernement, en lieu et place des tribunaux qu'on a installés dans le Kasaï, qu'il établisse des tribunaux populaires, les gens de Gachacha, où les civils qui ont été victimes des exactions viendront eux-mêmes témoigner.
Merci.
Il faut absolument des tribunaux populaires.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Eric Kiesdiakala qui était la technique et à Berry Franklin Louchaka qui a réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipelamondo. À la présentation, Guy Maté, bon suite de programme sur Radio Capi.